Et Radio Rollist reprend tout de suite avec la critique de Trésor légendaire, mais plutôt vite, s'il te plaît.
Ah bah écoute, ça va aller assez vite, ça s'appelle 6 trésors légendaires exactement. C'est un bouquin de 80 pages, format A5, qui est sorti chez les 12 singes au prix de 19,90€, 20€. Donc c'est un recueil de 6 scénarios indépendants, écrits par 6 scénaristes différents sur le même thème, la recherche d'un trésor perdu. Les ambiances de chaque scénario sont assez différentes, parfois brutales, genre mercenaires, ou plus pulp, type Indiana Jones. Alors en termes de forme, donc c'est assez joli, il y a pas mal d'illustrations. Par contre, la maquette elle-même est super bizarre, avec des titres énormes, beaucoup d'espace entre les titres, et des textes écrits en vraiment minuscules, tout petits. Donc c'est un peu chiant à lire, un peu bizarre à lire. Surtout qu'il y avait de la place d'écrire plus gros et surtout d'écrire plus. Et pourquoi je vais dire ça? Parce que les scénarios eux-mêmes sont peu détaillés et vont à l'essentiel. C'est-à-dire qu'ils sont décrits sous forme de scènes successives et qui sont extrêmement secs. C'est bizarre à dire d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fluff, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de choses comme ça. C'est il se passe ça, les joueurs doivent faire ça, ils peuvent aller là ou là. Et en gros, c'est tout. Donc après, il n'y a pas vraiment de place pour parler de l'environnement ou des motivations.
Pour ajouter, donc je l'ai survolé également. Et c'est vrai que c'est extrêmement squelettique, en fait.
Ouais, en fait, j'ai l'impression de lire un squelette. C'est exactement voilà, c'est ça. Et même la forme du texte, c'est-à-dire le fait que ce soit écrit petit dans un environnement où il y a de l'espace, ça donne un peu cette impression-là. Donc c'est extrêmement rapide, c'est très... Donc les persos sont pas décrits, évidemment, parce qu'il n'y a pas de système de jeu. C'est de la pure histoire. Mais moi il y a des forums de discussion sur lesquels je trouve qu'il y a plus d'informations, quoi. Genre sur Antonio Bed, t'as un thread sur lequel t'as un mec qui met des Fabien Liroux, un truc comme ça, qui met des ébauches de scénarios qui sont parfois je trouve plus détaillées. Je pense que les scénarios sont donc très rapides, ils sont très linéaires aussi. La qualité des scénarios est plutôt homogène par contre, donc c'est pas mauvais en soi. J'en ai lu 4 sur les 6 et survolé les deux derniers. Parfois je trouve qu'il y a des clichés et des redites. Par exemple, pour 2 scénarios, les commanditaires sont en fauteuil roulant. Donc c'est amusant, c'est-à-dire que le PNJ principal, celui qui fait la mission, est en fauteuil roulant. Alors c'est marrant une fois, mais dans 2 scénarios.
Mais si ça vient d'auteurs différents, c'est peut-être juste une coïncidence entre les deux.
Oui, mais complètement, c'est une coïncidence. Mais il y en a d'autres comme ça.
Ouais, c'est pas un game chef où ils avaient dit là, faut que tu cases un handicapé.
Non.
C'est pour les quotas.
C'est les fans de James Bond, quoi. C'est
genre... Oui, non, mais c'est ce que je dis, c'est un cliché. Mais c'est marrant de le voir 2 fois dans un scénario, enfin, dans 2 scénarios différents. Je vais pas accuser, mais ça montre que quand il y a eu la
mise.
Quand il y a eu la mise en page ou l'éditeur, il a pas forcément fait attention. À dire ça. Là, je suis en train de travailler par exemple sur un recueil de scénarios avec d'autres collègues.
Tu veux dire que ça manque un peu de direction éditoriale ?
Celui qui s'occupe de nous, il nous dit attention, place pas ton scénario à tel endroit parce qu'il y a déjà tel autre auteur qui le fait, ou attention à telle scène, etc. Donc,
manque de vision globale, quoi.
Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, il y a eu une commande à un moment et qu'ils ont pris les textes et qu'ils les ont mis en page et qu'ils ont publié tel quel. Voilà.
Mais ça vient d'une série, ça. C'est pas le seul bouquin.
Non, il y en a d'autres.
Ouais, il y en a quelques autres. Je connais pas les autres.
J'en avais confié à un Cyril, mais il ne l'a pas lu.
Donc voilà, moi je. C'est
lu et c'était aussi dirigiste.
Bah voilà, tu vois, moi je trouve que c'est marrant comme ça, mais ça montre qu'il n'y a pas eu de concertation effectivement ou des directions éditoriales. Il n'y a pas de système de jeu officiel dans les scénarios. Il n'y a pas de bloc stat, par exemple, dans les scénarios. À la fin, t'as quelques pages qui décrivent le système de jeu qui s'appelle D6 Lite, qui est une version donc légère du système D6 qui était déjà utilisé il y a une trentaine d'années dans Star Wars, qui est à mon sens un très bon système en soi. Donc ça permet simplement d'avoir quelque chose pour commencer, c'est-à-dire que vraiment c'est light, on donne quelques indications, mais c'est plus un système de jeu que tu trouvais par exemple, je sais pas moi, dans un Casus, dans un vieux Casus, quand on voulait présenter un scénario avec un bout de règle avec, quoi.
Pour avoir des caras qui étaient
pour
dire c'est un peu générique.
Pour dire c'est un peu générique, voilà. Donc là, ce bouquin-là, faut pas le prendre pour le système, hein, clairement. Mon avis est assez moyen, en fait. C'est-à-dire que l'idée, elle est sympa. Moi, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir des vrais recueils de scénarios génériques sur un thème donné. Les scénarios sont trop rapides et directifs. La maquette pique un peu, clairement. Même si c'est pas moche, c'est juste que c'est compliqué, ça se trouve c'est un peu désagréable à lire. Voilà, c'est le terme, désagréable. Par contre, les scénarios sont globalement pas mal, même si c'est encore une fois très classique. On sent que c'est un travail de commande, surtout. C'est-à-dire que c'est pas un truc, on sent pas les mecs hyper passionnés dans leurs scénarios.
Ouais.
Par exemple, il y a Ino qui écrit des scénarios extraordinaires avec beaucoup de choses intéressantes dedans. Là, le scénario qu'il a écrit, il est sympa, mais voilà, c'est pas le truc sur lequel il a travaillé 3 ans, quoi, tu vois.
D'accord.
En tant que source d'idées potentielles, c'est intéressant. Il y a toujours des scènes à récupérer. Il y a des choses intéressantes. Il y a pas mal de scènes marrantes. Par exemple, des démarrages in medias dans deux scénarios qui sont assez brutaux et bien faits, qui donnent des indications, genre répondez pas à leurs questions, ils se font tirer dessus, ils ont pas le temps, etc. Donc, pour un débutant, ça peut être pas mal. Il y a même des trucs un peu épiques. Il y a même du surnaturel contemporain, ce que moi j'aime beaucoup. Donc voilà, il y a des petits bouts de trucs à gauche et à droite qui sont pas mal. Mais dans l'ensemble, c'est pas extraordinaire.
Mais tu penses que c'est la destination de qui ?
Alors c'est souvent la question que je me pose quand je lis un truc, et là je suis un peu emmerdé. Pour un MJ débutant, il y a pas assez, vraiment pas. C'est-à-dire que c'est trop sec, et en plus il y a pas de perso, et en plus il y a pas d'aide.
Et le MJ confirmé, il va trouver ça.
Et un MJ confirmé, un peu comme nous, il va s'emmerder plus qu'autre chose. Il va trouver ça un petit peu basique et sans trop de jus, quoi.
Ouais, il y a 19€, c'est un peu compliqué pour avoir 3 idées, quoi.
Il y a pas 3 idées, il y en a quelques-unes, mais moi j'aurais foutu ça à 8€ par exemple, j'aurais trouvé ça très bien.
Ok. Tu vois. D'accord. Oui.
Non mais franchement, un truc à 8€...
On en revient sur ce que tu décrivais tout à l'heure, sur le côté qu'est-ce que t'en attends et qu'est-ce que t'en as, quoi.
Ouais, là la promesse. Bon, en plus les scénarios, c'est le thème est intéressant, mais le problème c'est comme dans toute série sur un même thème, bah ça se ressemble un peu, quoi. Tu vois, une fois que t'as cherché un trésor, un deuxième, bah bon, les 4 autres. Non mais c'est vrai, tu vois, c'est pas... En plus c'est à chaque fois des vrais trésors ou des trucs... Bon, il y a des originalités, genre quand tu cherches la boîte de Pandore, il y a une originalité à la fin, je trouve un twist qui est vachement sympa. Quand tu cherches, il y a un
ne
autre.
Ne pas l'ouvrir.
Pourquoi pas ? Enfin, quand tu vas chercher, par exemple, le trésor d'Enkidu et de Gilgamesh, c'est intéressant aussi. T'as un putain de twist qui est vachement sympa.
Ouais.
Mais voilà, une fois que tu l'as fait, tu fais ah ouais. Bon, puis voilà.
En fait, il y a des bonnes idées de scénar, mais ça constitue pas un bloc suffisamment important par rapport au prix, quoi.
Voilà, c'est ça. Si chaque scénario était deux fois plus gros. Mais pas plus complexe, mais juste mieux...
Plus détaillé.
Plus détaillé, plus sympa, avec
un peu de perso et des trucs. Ça aurait fait des trucs très acceptables.
Alors, c'est vrai que dans ce que j'ai lu dans ce bouquin-là, en fait, moi, je m'attendais à des scénarios du type Uncharted ou Indiana Jones.
Bah oui.
Et en fait, ce qu'il y a, c'est que la façon dont c'est écrit, vu qu'ils vont à l'essentiel...
T'as pas d'indication de style.
T'as pas les petites fioritures littéraires, les mots utilisés qui vont te enflammer ton imagination et te permettre de créer quelque chose de chouette.
Dans
Dragon de poche, là, c'est où t'avais des listes de verbes
pour faire, c'est
évocateur. Et là, en fait, le problème, c'est que c'est pas évocateur.
Mais non, parce que si tu prends un scénario de Indiana Jones ou d'Uncharted, si tu lui enlèves si tu gardes que le squelette, c'est classique.
Ah oui, c'est très très basique, ouais.
Or, ce qui fait la force d'un Indiana Jones ou d'Uncharted, c'est justement les idées.
C'est la force d'évocation.
La force des scènes ou les. Voilà, on prend Indiana Jones 3, t'as la scène du tank.
C'est la manière dont tu le mets en scène, c'est la mise en scène. Ouais. Là, il n'y a pas de mise en scène. Donc voilà.
Ok, d'accord, très bien. Nous allons passer à Blistage.
Alors, Blistage, c'est un jeu de Ben Lehman à qui on doit des jeux comme Polaris, mais Polaris, pas la version sous-marine, hein, la version avec des chevaliers dans les chevaliers dans le Grand Nord.
C'est pas tout à fait cet esprit-là.
Bon, c'est pas
les chevaliers dans le Grand Nord, dis donc.
C'est pas un jeu de rôle québécois. Bon.
Un jeu de rôle en chemise à carreaux.
Ça peut être une interprétation. Excusez-moi. Il y a aussi Clover, etc. Bon. Que vient de nous traduire la boîte à eux, donc. C'est un petit format couleur 296 pages. C'est traduit par Jérôme Inard, dont moi personnellement j'avais déjà apprécié le travail sur Cold City. J'avais eu le PDF en VO, mais ça m'était vraiment tombé des mains. Bon, un PDF c'est difficile, mais bon, c'était quand même un peu cet état dans l'esprit. Là, c'est clair, c'est imagé, Anthony Lehus, et le tout pour 29,90€, ma bonne dame. Bon.
Mm-hmm. 29€ en PDF, ça ?
Non, le joli bouquin en couleur. Bon. Voilà. Non, le PDF anglais, c'était. Là, je sais pas si le vend en PDF, mais moi, je l'avais lu avant la VO, mais c'était imbitable, quoi. C'était pas agréable à lire, tu comprenais pas tout, enfin bon, parce que c'est personnel, mais bon. Là, en tout cas, je trouve que c'est bien présenté et que ça se lit bien, du coup. Bon, vous vous rappelez Summerland, hein, la dernière fois ?
Ouais,
on y croit. Tout le monde avait disparu dans les bois. Bon, bah là, c'est un peu la même histoire. Et là, tous les adultes ont subi le bliss. C'est un petit peu façon Ulysse 31, tu sais, jusqu'au royaume Hadès, vos corps resteront inertes. C'est-à-dire que les adultes, en gros, bah, un jour, ils s'endorment. Ils n'ont plus besoin de bouffer, ils restent sur place, voilà, ils ne servent plus à rien.
Mais ils sont encore là.
Ouais, du coup, la civilisation s'effondre et les enfants survivent comme ils peuvent quand arrivent les autres, qui sont responsables du bliss. Ce sont des êtres qui sont en fait ancrés dans les rêves et ils envoient sur Terre des automates qui ravagent le peu qu'il reste. Mais il y a des jeunes qui sont dirigés par un adulte. le seul adulte qui s'est pas endormi. Ils arrivent en gros à caillasser un automate et à s'approprier un bout de leur technologie. Et avec ça, ils vont fabriquer le berceau Anima. Et avec ça, ça va leur permettre de lutter efficacement contre l'ennemi en le taper dans le monde du rêve.
Avant d'aller taper dans le monde du rêve.
Bah ouais, parce que les autres, ils sont là-dedans. Ils viennent du monde de l'esprit.
Tu as mélangé beaucoup de mythologies les unes avec les autres. Hein.
Ouais, bon. Oh, ouais, ça fait penser à des animes, hein, forcément. Bon, les automates, ça ressemble grosso modo à des Evangelion. Et okay. Par contre, je pensais plus au niveau des pilotes que je vais décrire, ça m'évoquait un autre qui s'appelle Aquarion, où c'est pareil, t'as des espèces de pilotes qui fusionnent leurs esprits, etc.
C'est du méca japonais, quoi.
Ouais, pour aller taper, justement.
Sauf que là, donc, ouais. Du coup, c'est commandé par l'esprit, c'est ça ou...
Ouais, oui, ça, oui, c'est un des petits points qui est toujours très très clair.
D'accord.
Enfin, moi,
parce
pas,
que c'est...
Pas...
Mais parce qu'en fait, quand t'es dans ton gros robot, est-ce que
tu
as un joystick dans chaque main?
Tu
ou...
n'es pas dans ton gros robot, parce qu'on y arrive juste en dessous.
Ah,
pour
d'accord.
Se faire, pour aller botter le cul. Et on a un berceau Anima qui a donc été fait à partir de la technologie piquée sur un automate.
Ok.
Voilà. Je dis pas à quoi ça ressemble, parce que ça c'est un peu le secret du MJ. Et donc les pilotes, en fait, grâce à ce berceau Anima, ils vont se façonner en fait des armes et une armure, donc en gros l'espèce d'équivalent de mecha si tu veux, mais dans le monde de l'esprit. Et ils vont façonner cette armure et compagnie en s'appuyant sur la force de leurs relations humaines et sur les émotions qu'elles leur inspirent. D'où le titre, en fait, le sous-titre du jeu qui est « L'amour est notre meilleure arme ». Et là, on n'est pas du tout dans un esprit feel good, je vais me battre dans le monde des rêves, etc. On est bien dans du post-apo sombre avec juste une petite lueur d'espoir.
D'accord.
Donc Beastage, ça vous propose de jouer ces jeunes, 7 ans après le Bliss, et de mener la campagne contre les autres. Campagne vraiment au sens campagne militaire.
Oui, ok, très bien.
Contre l'envahisseur.
Uh-huh.
C'est clairement un story games avec un gros contrôle narratif des joueurs qui peuvent d'ailleurs interpréter plusieurs personnages.
Ils ont pu grandir, les gamins ?
En fait, ils jouent grosso modo des gamins de 13 à 17 ans, et quand ils ont 18 ans, bah, ils vont subir le Bliss, donc ils sont out. Complètement, parce qu'en fait c'est la course contre la montre qui va un peu rythmer le jeu, comme on va le voir.
Est-ce qu'il y a des bébés?
J'allais poser la question, j'allais dire, est-ce qu'ils se reproduisent? Est-ce qu'ils étaient
normalement,
plus ambigu
à 16 ans, tout ça, enfin 15 ans,
même avant.
Avant,
même
oui,
avant.
Tout ça.
Donc oui, effectivement, là, ça fait partie, bah, vous allez voir, tiens, je vous l'évoquerai, effectivement.
Oh,
en premier lieu, on définit le cadre. Donc, on joue automatiquement près de chez nous, histoire de connaître le coin. Bah, comme je l'ai dit, hein, c'est un petit peu c'est sombre, en fait. Ça paraît pas au démarrage, mais bon, ça fait partie de la chronique et du livre, je trouve. Donc, on joue près de chez nous, on joue 7 ans dans le futur, et tout le monde cogite un peu pour savoir qu'est-ce qu'on choisit comme coin pour faire le QG, les ressources dont on dispose, est-ce qu'on a des voisins, à quoi ça ressemble le rêve, à quoi ressemblent les autres, est-ce qu'ils ont laissé des traces dans le monde réel. Comme on disait tout à l'heure, c'est des êtres qui viennent de là, mais leurs automates, c'est bien des robots énormes, géants, qu'ils envoient dans les villes, de ravager tout, ou pas, parce que c'est aux joueurs de le définir. Le groupe, va aussi définir des espoirs communs, les grands objectifs qui guideront leur mission. Il y a 4 types de personnages différents. L'autorité, c'est l'unique adulte de la troupe, à tendance insomniaque. S'il a survécu au Bliss, en fait, c'est parce qu'il dort pas, ou il n'est pas là, voilà. Donc ça fait 7 ans qu'il dort pas, à peu près, donc bon, ça fatigue un peu, quoi, par intermittence.
Et un peu sur les nerfs, le mec.
Ouais, je pense, ouais. Il y a les pilotes, qui sont donc les héros de la guerre, qui sont au centre de l'action, et leurs ancres. C'est les personnages qui vont les monitorer, en fait, quand ils sont en pleine mission dans le rêve. Donc en gros, t'en as un qui est en train de se battre, et t'as l'autre qui est en train de dire « sort à gauche », ou de surveiller qu'il n'y a pas des... Tout à fait, un espèce d'opérateur, en fait, comme dans Matrix. T'as un pilote et une ancre qui lui est dédiée. En gros, il faut compter un pilote et une encre par joueur, qui, comme j'ai dit, interprète plusieurs personnages. Hein. On utilise le terme de « ils se les approprient ». Les autres personnages sont des seconds rôles, ils peuvent servir tel quel, ou ils peuvent même évoluer vers des rôles plus intéressants en fonction du jeu. Voilà, si un des pilotes est mort, peut-être que le cuisinier, finalement, va se trouver un homme de pilote et va se retrouver sur le devant de la scène. C'est en fonction de comment est-ce qu'on fait évoluer les choses. Comme je disais, les joueurs peuvent s'approprier plusieurs personnages, sauf l'autorité, ça c'est un peu chasse gardée du MJ. Du moment que ces personnages n'ont pas des liens trop forts, quoi. Tu peux pas jouer le frère et la sœur, les super amoureux de la mort et tout, ça n'a pas grand intérêt puisque tu vas pas jouer tes scènes en solo. C'est quand même plus intéressant s'il y a quelqu'un qui te donne la réplique. Pour chaque pilote, on va choisir un archétype, genre la recrue impétueuse, l'hédoniste insouciant, le vieux vétéran, etc.
Le vieux vétéran de 16 ans
de 17 ans, 17 ans. Attends, c'est un vieux. Il a des poils et tout. Et donc,
il y a des hédonistes, donc bon...
Mmh. Ouais, mais c'est, comme on a dit, ça peut être l'hédoniste très... Enfin, il y a un âge en fait qui est plus ou moins recommandé pour chaque archétype. Et le choix de l'archétype, ça va affecter en fait les relations qu'il va avoir. Et chaque encre va aussi avoir une petite spécificité technique selon qu'elle est déterminée, futée, irascible, rassurante, etc. Quoi. Et ça le permettra d'assister le pilote pendant l'action. Seul le pilote qui a une fiche en fait, il y a en gros deux parties dessus, des jauges qui l'amènent vers sa fin, le trauma, la terreur et le bliss, puisque donc le pilote accumule aussi au fur et à mesure du jeu du bliss, qui l'amène donc à sa fin, à son retrait. Et il y a la liste des relations qui, pour le coup, sont les seules, ont des vraies caractéristiques. C'est-à-dire chaque relation est caractérisée par une intimité, de la confiance et du stress. L'intimité, c'est jusqu'où on est allé. Est-ce qu'on a juste bu une bière ensemble? Est-ce qu'on s'est pété la gueule l'un l'autre? Est-ce qu'on s'est aidé à sortir du pétrin? Est-ce qu'on couche ensemble? Est-ce qu'on est de la même famille, etc. La confiance, c'est plutôt la solidité de cette relation. Et le stress, bah, ça va être les moments d'incompréhension, d'engueulade, etc., qui vont limiter nos possibilités de regagner en confiance. Voilà, c'est un frein à regagner de la confiance quand une relation subit un certain stress.
Mais du coup, quel est le contexte social dans lequel ils vivent, ces gens ?
Une communauté d'enfants avec un seul adulte par là-dessus et qui survit comme ils peuvent dans un QG avec des ressources restreintes.
J'ai un truc que j'ai pas compris. Il y a un seul adulte dans le monde entier ?
Bah, tous les autres dorment. En tout cas, s'il y en a peut-être d'autres, mais votre groupe est chapeauté par un adulte. Qui, ça se trouve, fait rien, hein, si vous avez défini qui
c'est
un adulte.
Non, mais ça veut dire que
c'est possible aussi.
Le seul adulte du monde, en fait, officiellement, on va dire, est un peu. Enfin, nous, on joue les personnages qui sont autour de lui, quoi.
Ouais.
D'accord. Donc, ça a un sens particulier, ça ? Est-ce qu'on peut jouer sans l'adulte ? Est-ce que tu vois, c'est.
Bah, à la limite, s'il était tué, s'il lui arrivait quelque chose ou quoi que ce soit, il y en aurait.
Il n'y a pas grand-chose qui changerait.
Il y a un personnage qui assumerait certainement ce rôle, en fait, qui deviendrait du coup l'autorité, c'est-à-dire que le gars qui généralement va te filer un briefing et va te dire voilà, la mission, il faut faire ça, il faut qu'il y ait un peu quelqu'un qui prenne les commandes du groupe, si tu veux, pour arriver à.
D'accord, c'est pas forcément un adulte.
Ça peut être un môme plus âgé.
Ça pourrait être un môme qui le remplace, qui est amené à le remplacer. Mais on commence le jeu avec une autorité qui est donc cet adulte, quoi. Il peut même crever à la première mission.
Ouais, moi, ma question, justement, c'est est-ce qu'il a une importance mythologique, j'allais dire.
Ah.
Non. Pour moi, non. Voilà.
Bon, bah, ok.
Ou qui crève, alors.
Bah, voilà.
Qui crève, alors.
Bon, le jeu, ça s'articule, en fait, ensuite, sur l'alternance de trois scènes de trois types, grosso modo. Briefing, mission et interlude. Et quand un pilote arrive au bout du rouleau, c'est-à-dire quand il a au moins 108 en bliss, ou qu'il est méga traumatisé, etc., il a droit à ce qu'on appelle une scène de destin ou d'avenir. Dans le briefing, le MJ pose les termes de la mission à venir, et il sélectionne le ou les couples ancre-pilotes qui vont s'attaquer aux objectifs. Un peu comme dans les animes sources, le héros il peut tout à fait se rebeller et dire « Ah non, moi j'en ai marre d'aller me battre, je souffre trop, etc. » Mais il y a toujours un prix à payer qui en fait dit « Bon, faudrait quand même y aller à un moment donné. » Dans la mission, c'est l'ancre, et c'est pas le MJ, qui décrit ce qui arrive pour atteindre les objectifs fixés dans le briefing. Donc si on t'a dit aller repérer la base ennemie, on pourra décomposer le truc en bon bah déjà tu formes ton armure, ensuite tu te déplaces jusque là-bas sans te faire repérer, ensuite tu essaies de t'infiltrer dans le lieu. On va découper comme ça la mission en différents objectifs et c'est donc l'ancre, donc okay. le joueur qui interprète l'ancre qui décrit ce qui arrive au pilote.
Mais c'est pas un peu mécanico-chiant comme
Est-ce que c'est pas narrativiste pour résumer?
Ah bah c'est comme.
Oh mais enfoiré! Dis donc. Alors là carrément!
Qu'est-ce que j'ai dit au début? C'est un story game avec un gros contrôle narratif des joueurs. Parce que du coup, en fait, toi MJ.
N'écoute pas!
Tu as... Ah c'est ça! Toi MJ, tu as donné une mission. Tu as dit la mission c'est d'infiltrer la base ennemie, blablabla. Et après, en fait, tu laisses un petit peu les joueurs se démerder
après,
pour
après, il va
se
fumer un pet.
Parce que les portes sont ouvertes. Et ensuite tu
gagnes.
Par contre, j'ai pas compris l'armure, la mission, elle se déroule dans l'univers des rêves.
Ouais, tu pars en fait, voilà. On te branche sur ta petite machine, toi pilote, hein, tu arrives dans le rêve, tu as un gars qui est là pour surveiller tes signes vitaux, ton machin, que tout se passe bien, et qui voit en fait, qui voit aussi tout ce qui t'arrive.
Mais du coup, tu peux avoir n'importe quelle forme, n'importe quelle.
Oui, c'est un peu ça en fait. Ouais.
Parce que ça, tu décris un peu des armures, mais ça peut être des armures.
Ah, mais
de...
Je vais en parler.
D'accord.
Ah mais attends, mais je comprends rien. Alors, si ça se passe complètement dans le monde des esprits, ils viennent faire quoi là-dedans, les mécas ?
Bah, en fait, c'est une armure mentale que tu te constitues. C'est une espèce de...
Du coup, ça n'a pas du tout lieu dans le monde réel, alors ?
Non. Moi, c'est le petit point que j'ai pas trop compris, l'impact. Parce que tu peux avoir des trucs du rêve qui vont déborder dans la réalité à cause de toi. Alors, en gros, t'es dans ta machine, t'es devant ta console de jeu avec ton casque branché sur la tête, là. Et en fait, à un moment donné, tu pètes un câble et ça se passe mal. Et t'as une espèce de créature protoplasmique qui va s'extraire de la machine et qui va attaquer l'autorité, par exemple, qui était en train de prendre de la drogue à côté pour rester réveillé et massacrer sauvagement.
Est-ce que tu peux pas le voir comme étant deux univers parallèles qui s'interpénètrent ?
Voilà, un petit peu à la Umbra.
C'est ça
qu'il faut le voir. Si tu nettoies le truc dans le rêve, mystérieusement, l'automate va s'arrêter en plein milieu du champ de bataille parce que tu l'as flingué ou sur le plan du rêve.
Tu peux me remontrer le bouquin, juste la couve.
Mais on parle pas du tout du même jeu. Et non, sur la couve, tu vas te dire, oh, mais c'est un gros mecha qui ressemble à Evangelion.
Ouais, ouais, qui est au milieu du. Oui. Mais en fait.
Sauf que ça, ce sont les automates envoyés par l'ennemi.
En fait, t'as les automates qui viennent réduire les gens bouillis dans le monde réel.
Mais qui sont envoyés par les autres qui sont,
qui sont envoyés par les gens dans le monde de l'esprit. Et en pétant un automate, on a réussi à faire en sorte de construire une technologie qui permet d'aller
qui
dans
permet
l'autre
d'aller,
sens.
Les, c'est pas dans les rêves.
Putain, mais
pitch
c'est.
De base, il est technique. Hein.
Ouais, ah ouais, 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 ah, ouais, la vache, mais en fait, je me rends compte que j'avais pas, pas forcément bien écouté au début. Et...
Ouais, oui, mais ça, c'est la pizza.
Et mais en fait, c'est moins sympa que ce que je pensais.
Non, mais c'est sympa. Moi, j'aime bien là.
Ouais, l'idée. Mais moi je préférerais des vrais mechas machin.
Ah, mais comme j'ai dit au début, c'est pas du feel good, hein, c'est pas du gentillet, c'est pas du. Bon, un jeu de jour, on parlera d'autres jeux de
non, mais mecha. Ça pourrait ne pas, très bien ne pas être gentillet
pas tout,
tout en
pas tout,
n'ayant pas le côté. On voit dans un monde parallèle
qui
n'est pas forcément utile en fait.
C'est quelle idée on se fait du monde dans lequel ils sont. Les missions que tu décris, on a moins de références. Ce que disait sur le mecha, on voit tout de suite nous, les trucs de mecha, on en a tous
oui,
vu.
Oui, voilà,
tout,
qui détruisent des vallées, des machins.
Ah oui, mais ça en avait techniquement appliqué. Parlant, c'est comme si t'avais un mecha, sauf que tu vas dans le monde du rêve, quoi. Donc, si le monde du rêve, ça ressemble à un paysage à la Matrix, quoi que ce soit, bah voilà, tu ravages ce que tu veux, tu te bats sur ce champ de bataille-là. C'est,
d'accord.
C'est très ouvert.
Ouais,
oui, c'est très ouvert.
Mais pour moi, ça a moins de.
C'est quelque chose qui va être défini, comme j'avais dit aussi au démarrage. Au début, tu te mets d'accord avec les autres joueurs. En fait, il faut arriver à un consensus, et ça fait partie d'ailleurs du rôle du MJ. D'obtenir un consensus autour de la table pour qu'on dise voilà, le rêve ça ressemble à le pays des bisounours. Ouais, ah ouais, ça peut-être pas terrible.
Oh putain, on va le défoncer. Ouais. Coup de méca.
Viens là, gros câlin.
C'est quand tu lui ouvres le ventre, il y a plein de bonbons qui sortent. Et
oui, enfin, en même temps, du coup, si tu jouais vraiment un petit gamin de 13 ans traumatisé, etc., le futur héros en devenir, tu pourrais très bien imaginer que ton armure ressemble à un bisounours parce que c'est à ça que ressemble la seule peluche qui te reste. Ça pourrait très bien être défini comme ça.
D'accord. Okay.
Bon, du coup, on tente une mission. Donc là, on est dans les scènes de type mission qui vont s'enchaîner. En fait, on va enchaîner différentes scènes d'objectifs. Et pour savoir si on réussit un objectif, il y a un moment donné où le pilote va être, par la description qu'en fait l'encre et les choix d'action que le pilote va faire en réponse, on va arriver à des moments où le pilote est en danger, où il va réussir son objectif. Et dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle un climax. Et là, enfin, on va jeter les dés. Bon, le monde n'a rien jeté depuis le début. Il n'y a que pendant l'émission en fait, qu'on va jeter des dés. On joue avec des dés fudge. Donc les moins, les plus. Et de face à zéro. Mais sinon, si on a que des dés de 6, on peut faire avec sans trop de difficultés. Et on en jette un nombre. Attention, on s'accroche. Égal à la somme des intimités des relations qui composent l'armure. Ah, l'armure anima dont on parlait avant, là. Hein, bande d'impatients. C'est-à-dire que si j'ai une relation avec Robert et que j'ai une intimité à 3 avec lui, et peut-être que dans le monde du rêve, Robert, c'est mon fouet psionique, tu vois. Et à l'inverse, Gérard, ça peut être mon propulseur à roulettes ou je ne sais pas quoi, tu vois, qui va aider à façonner, à styliser un peu mon armure pour la différencier de celle du pilote voisin.
Essayez de changer les prénoms quand même.
Non, parce que c'est français. C'est un podcast français, faut respecter les quotas.
Donc j'ai Joe Jack William Avril, mes 4 missiles, c'est ça ?
Par exemple. Complètement. Ou alors ta grâce féline qui vient de ton encre, Ray Georgette, dont le nom d'ailleurs a été inspiré par un amour de ton adolescence à toi. C'est pour t'attacher toi plus aussi à. Tu vois, ça c'est un des conseils du jeu. Et parallèlement, en fait, Gérard, il peut très bien être dans ton armure à toi et servir complètement à autre chose dans l'armure du voisin d'à côté. Et pendant ce temps, ton encre, le gars qui te monitore, qui ça se trouve, est la femme de ta vie. Là, je rajoute, je vous montre un peu l'aspect drama.
Okay.
Gérard, la relation émotionnelle à Gérard.
Ouais, qui se matérialise. En fait, c'est la puissance, l'intensité en fait de ta relation émotionnelle avec Gérard que tu vas façonner et que tu vas intégrer dans ton armure anima.
Et tu sais, c'est quelqu'un que tu détestes à fond.
Ouais, mais ça peut être ça aussi.
Ouais, tu détestes, ça te fait un énorme canon.
Voilà, ouais. Bah, par exemple. Mais ça, ce qui compte, ça va être l'intimité. Voilà.
C'est-à-dire, tu le détestes vraiment, vraiment.
Bah, si c'est. Comme dit, en fait,
t'as piqué ta meuf.
Bah, tu vas quand même avoir une relation effectivement intense avec lui. Donc, du coup, ça peut être effectivement quelque chose d'important. Mais. Cette notion d'intensité de la relation, il y a un moment donné où ça peut te péter à la gueule, c'est quand tu n'as plus confiance, quand ta relation va péter, pour de bon. Et là, plus ta relation était, plus tu avais une grosse intensité de relation, quand ça va péter, plus tu vas gagner en bliss. Voilà. Donc avoir des super grosses relations, je suis super intime avec tout le monde, etc. Ouais, mais le jour où tu les perds dans ta vie, ça te fait un choc assez monstrueux, et tu vas très très vite engranger du bliss, du traumatisme, etc.
J'aime le côté ennemi intime, qui quand il meurt, tu sais plus contre qui te battre et...
Et t'as besoin d'en trouver un nouveau.
Et t'as besoin d'en trouver un nouveau, et c'est la lutte, et t'es triste. Ouais. Ouais, parce que t'as plus ton opposant majeur, et t'as plus quelqu'un qui te comprend et tout, j'aime bien.
Alors on parle de confiance, mais comment est-ce que cette confiance, elle va baisser ? Bah là, on a atteint le climax. Je jette, mettons, 8 dés, 10 dés, en fait, qui correspondent à la somme des intimités de ce que j'ai mis, en fait, dans mon armure. Et en fait, je vais devoir attribuer des dés à différents facteurs, tels que la réussite de la mission, tels que ma protection de moi, pilote, tels que la protection de chacune des relations que j'ai mis dans mon armure. Donc on va se dire, bah, à ce moment-là, si je connais 15 personnes, je mets tout le monde dans mon armure, j'ai une super armure de la mort avec 20 000 missiles. Ouais, sauf qu'il faut arriver à protéger tout le monde. Là, avec la répartition des dés, sachant que tous les dés qui ne sont pas affectés contribuent aussi fortement au bliss, histoire justement qu'on n'inclut pas toutes les relations qu'on a dans l'armure, il y a un petit choix à faire sur ce qu'on met, quel investissement en fait on veut avoir dans la baston. Et on peut très bien changer son armure à chaque fois. Hein. Voilà, voilà. Alors...
J'aime beaucoup l'idée, moi.
Ah ouais, c'est...
J'ai du mal à comprendre comment ça se met en
place.
Ouais,
on a un peu de mal à visualiser. Donc,
mais bon. j'aime bien l'idée.
Donc de base, en fait, on a dit sur les différentes... Ouais.
Ils ont essayé de rendre ça plus pédagogique.
Oui, oui.
Tu veux en parler?
Ouais, ouais, je l'évoque. En fait, oui, on a toute une série de petits encarts, en fait, avec la petite tête version anime de personnages, du MJ.
C'est
avec
très mignon, je trouve.
Ouais, mais ça aide vachement à la compréhension. Comme j'ai dit, le PDF, le premier, il était... pas vraiment, il était un peu chiant à lire quoi, et j'étais pas allé jusqu'au bout dans la version anglaise.
Ah oui, il y avait aucune idée, c'était pas illustré du tout en
non,
fait.
Non, je crois pas.
D'accord.
De mémoire, non, ou alors, enfin, c'était un truc noir et blanc, et c'était pas du tout.
Dessiné par l'auteur, tout ça.
Peut-être, ouais. Comme dit, en fait, de base, je dois placer un dé dans chaque élément, succès de mission, protection du pilote, protection des relations. Et par exemple, c'est là où on va donc avoir des choix un peu stratégiques à faire, mais pas tactiques au sens qu'est-ce qui est le mieux, etc. On est même encouragé à suivre son cœur, quoi. C'est de, voilà, fait comme tu le sens. Ouais. Est-ce que je me protège moi pour éviter d'être traumatisé et que l'encre perde le contrôle de l'environnement?
Ouais.
Perdre le contrôle dans l'environnement, ça va laisser aux autres joueurs UMJ la possibilité d'ajouter progressivement du cauchemar. C'est-à-dire que l'encre va commencer à dire bon, alors là, tu passes au-dessus de trucs, et en fait, non, il y a des espèces, les autres joueurs vont rajouter non, il y a des espèces de racines qui sortent du sol et qui vont essayer d'entraver ton robot. Donc l'encre perd vraiment son contrôle narratif à partir du moment où la mission est en semi-échec. Elle peut même. Si on attribue un dé négatif au truc, on peut carrément dire l'objectif ne sera pas atteint, point quoi. Alors la mission, la mission est avortée, la mission peut être ça quoi.
Et en fait tout ça c'est rajouté par les autres joueurs.
Ce point là non, c'est toi qui vas choisir comment est-ce que tu est-ce que je mets un plus, est-ce que je mets un 0 ou est-ce que je mets un moins sur ma réussite de mission. Est-ce que est-ce que je me dis que peut-être que ça vaut la peine de pas réussir tout de suite en me protégeant moi, en protégeant mes relations et en espérant me refaire sur un second jet de dé qui ça se trouve sera pire, etc. quoi. Donc suspense. Est-ce que je mise tout sur la réussite de l'objectif ou est-ce que j'expose donc mes relations à du stress voire à une perte de confiance? Dans un premier temps on va gagner du stress, donc qui va donc rendre plus difficile le fait de gagner de la confiance, ou carrément une perte de confiance qui elle va être vraiment plus hardcore et plus dangereuse, puisque comme on a dit ça peut briser la relation et donc là avoir un fort impact donc au niveau du bliss. Ça se corse aussi pour un personnage qui est traumatisé, donc qui a choisi de ne pas bien réussir, de ne pas bien se protéger, etc. Parce que le MJ va le forcer à assigner 2 dés sur un front, et en gardant le plus mauvais des deux. On peut aller jusqu'à 6 en trauma. Donc ça veut dire que au pire, on est un peu pas longtemps avant ta fin, il te force à te mettre double dés sur 5 fronts différents. Bon, ça devient un petit peu compliqué, et les négatifs risquent de l'emporter assez rapidement.
D'accord.
Bon, mettons que voilà, mettons que j'ai réussi ma mission, j'ai abîmé mon fouet, donc mon fouet psionique qui s'appelle donc c'est Gérard en fait, hein, c'est ma relation avec Gérard qui a pris un coup.
Et tout ça c'est la faute à Gérard.
Mais non, c'est ça, c'est plutôt genre ouais, c'est ça, ça où Gérard qui t'en veut, etc. Où il y a un truc qui a été cassé entre vous, qui n'est plus pareil parce que tu l'as pas bien protégé dans le rêve. Et donc maintenant je vais profiter d'une scène d'interlude pour que mon pilote et Gérard puissent parler un peu, passer un peu de temps ensemble, tu vois. Et alors on peut pêcher la truite, on peut s'engueuler ou on peut faire de l'action plutôt ride. Et en fonction de ce qui se passe.
Faire de la balancelle à la nuit tombante.
Voilà. Et en fonction en fait,
avec
de
ton
ce qui
pote Gérard.
Eh, de toute façon, on s'en fout. Il y a plus de société autour. Alors, il y a personne pour te. Il y a qu'un adulte qui n'est peut-être pas.
Qui est défoncé. En plus,
ouais.
Qui est pas prêt à donner des règles.
Ouais. Donc, en fonction de ce qui se passe, ça peut faire baisser la confiance de la relation. Ça peut l'améliorer. Ça peut améliorer son intimité. On peut abaisser son stress. Mais tout ça, c'est pas encore une fois, c'est pas le MJ qui va décider de ça. C'est un juge, donc un joueur. Qui observe la scène, il se met à distance, quoi, il observe et il dit je pense que là vous avez plutôt fait ce type de scène et donc que ça augmente votre intimité, par exemple. Alors voilà, si on s'engueule un coup, ça peut évacuer du stress. Si, si on couche ensemble, ça peut augmenter notre intimité, etc. etc. quoi.
Ça peut.
Bah, ça dépend où on en était déjà avant, quoi.
C'est possible.
Ouais. Donc voilà les trois types de scènes basiques on a vu, briefing, mission et interlude. Alors moins courantes mais très importantes, on a les scènes de destin et d'avenir qui se produisent donc quand un des pilotes atteint 6 en trauma, donc c'est bon, il peut plus trop servir là, il veut plus rentrer dans la machine, il fait pipi dans le berceau animal, il bave, tout ça. Ou quand il a atteint 108 en bliss. À ce stade, le pilote, il va se retirer du jeu ou il va mourir, mais ça lui laisse les pleins pouvoirs, encore une fois, narrativisme, hein, pour orchestrer une scène qui aura un grand impact, hein, puisque c'est celui de résoudre ou d'empêcher la résolution d'un des espoirs du groupe.
Oh, donc, tu peux même nuire au groupe.
Ouais, complètement. Oui, parce que
c'est vraiment immonde en fait.
Non, c'est pas immonde, c'est parce que t'arrives à un certain niveau de sacrifice ou de fin, de bout du rouleau et compagnie, de ton personnage il a morflé, et donc ton bénéfice à la fin c'est de style, s'il y a un espoir qui est est-ce qu'on va vaincre les autres, tu peux très bien invalider le truc et dire non, on n'y arrivera pas, c'est fini parce qu'ils ont envoyé un virus dans le berceau Anima. Putain, et ils savent tout ce qu'on fait.
Non, mais c'est écrit par des dépressifs, quoi.
C'est... En fait, c'est Princesse Sarah avec des mechas.
Ouais, pourquoi pas, ouais.
Et du Smallville dehors.
Excuse-moi, mais depuis tout à l'heure, ce que je lis me plaît énormément. C'est vraiment bien fait.
Ça, ça le mérite de sentir très original.
Et pourtant. Mais bon.
Que la taille est belle.
Ouais, mais c'est une lecture. Ouais, il y a la même chose qui se produira aussi quand il restera plus qu'un pilote en jeu. Donc en gros, si tous les autres pilotes meurent, il en reste plus qu'un, bah c'est lui qui décide en fait comment se finit l'histoire, quoi. Est-ce qu'on arrive à, si on avait choisi l'espoir, est-ce que moi on arrivera à sauver les animaux? Et bah peut-être
non.
Non plus.
Tous les chatons vont mourir.
Oui.
Voilà. À ce stade, en fait, avec tout ce que je vous ai lu là, en fait, on en est à 120 pages dans le jeu. Et après, il y a 25 pages d'options, de cas peu courants et de conseils sur des choses utiles, comme gérer les campagnes courtes, les longues, avec des joueurs qui se pointent pas toutes les semaines, avec un seul pilote pour tout le monde, hein, donc ça fait... Comment gérer la relation avec...
Ça, c'est tout le monde est John, ça.
Comment gérer sa relation avec son fœtus?
Oh.
Je demande pardon.
Eh ben oui. À partir du moment où, d'ailleurs, vous vous demandez est-ce qu'on se reproduit, tout ça, etc., des bébés et tout, bah ouais, mais en fait, à partir du moment où tu as un bébé dans ton ventre, tu peux...
Je te rappelle qu'ils ont entre 13 et 16 ans.
Ouais.
Bah, ça empêche
justement,
pas.
Okay.
Non, ouais, d'accord.
13 et 17, bah oui, justement, 13 ans, c'est le bon âge.
Je ne ferai aucun commentaire, évidemment.
Et donc, du coup, en fait, ton enfant de 13 ans peut très bien se retrouver avec un polichinelle dans le tiroir et développer, en fait, une relation avec de l'intimité, avec de la confiance dans ton fœtus. Avec, genre, qu'est-ce qui se passe si tu brises la confiance de ton fœtus?
Oh la vache.
Oh, mais quelle horreur. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, je veux pas jouer à ça. Après,
non,
je serais traumatisé.
Non.
Ah, j'ai pas l'impression. Non.
Non, je ne le conseille pas pour initier vos enfants.
Alors écoute.
Tu vois, regarde.
Et là, tu as 13 ans, tu es enceinte. Hein, quoi?
Et d'ailleurs, tu vas perdre le bébé.
Et il t'en veut.
Et tu t'en veux.
Il prend la forme de racine qui t'accroche. Parce...
Oh là là.
Le père est mort en tant que pilote il y a 2 jours.
Oh là là.
Et en plus, tu penses qu'il t'a trompé avec son encre.
Qui est ton canon?
Donc du coup, est-ce que t'as vraiment envie de protéger ton canon et ta relation que tu as avec lui dans sa mission?
Franchement, ça me plaît. Non, sans déconner, énormément, moi.
On en blague, mais ça...
On vient de créer en 2 secondes, là.
Non, mais c'est riche, c'est riche.
C'est vrai que...
Si on n'est pas encore décidé, justement, parce que là, on se dit, oh, c'est riche, on va créer un truc. Sur 25 pages, on a un setting complet avec tous les personnages, le décor, les voisins, les autres, des missions qui...
Les voisins.
Bah, les voisins, oui, les autres, s'il y a d'autres gamins qui arrivent à survivre dans le coin, mais qui n'ont pas le berceau Anima.
Ah, oui.
Quel est votre niveau, qu'est-ce que vous échangez avec eux?
Okay.
Mais tout ça, c'est pareil, c'est défini par le groupe de joueurs. Si le groupe a dit non, on n'est plus que 10 gamins, tous les autres ils sont morts, on est planqué dans un hôpital, bah voilà, c'est jusqu'à preuve du contraire, ça se passe comme ça. Jusqu'à ce moment où le MJ va dire non, vous avez une mission d'exploration parce que vous avez capté un signal radio qui provient de la ville d'à côté, blablabla, qui est derrière la ligne des automates.
Wow, classe.
Et tu crées des trucs comme ça. Et là, tu peux développer ton background comme tu veux, quoi. Mm. Et du coup, dans ces 25 pages, on a aussi des missions. Bien détaillé, précise, avec plein d'idées d'objectifs qui complètent par de nombreux exemples ce qui a été dit avant. On nous fournit aussi un diagramme simple d'enchaînement des types de missions en fonction des échecs ou des réussites des phases précédentes. Genre t'as subi une attaque, tu l'as réussi, bah pouf, tu enchaînes avec, je sais pas moi, éclaireur chez l'ennemi, etc. Donc vraiment un système pour créer une campagne facile. Et le livre se termine sur des annexes qui récapitulent tous les points importants dont on a besoin dans le jeu. Alors, en résumé, un ouvrage qui est agréable à lire, un story game qui est bien écrit, avec des éléments clairs sur l'ordonnancement des scènes, des choix à conséquences importantes pendant les missions axées sur le descriptif, parce que donc là c'est le personnage de Lank qui décrit les choses, donc ça, on est quand même bien dans l'immersion. Du roleplay détaché de la technique pendant les scènes d'interlude, avec tout le monde se distancie vraiment du technique, puisque t'as un joueur, je juge, qui lui est en retrait pour juger au final et donner l'impact de la scène. Et donc ça c'est pendant les scènes d'interlude. Et personnellement, moi je serais tenté d'y jouer, pour peu que j'ai des joueurs qui ont une bonne vision du canon esthétique, donc des séries un peu animes, justement à tendance un peu morbide, dépressif et compagnie. Mais pour ce qui est de le maîtriser, je serais beaucoup plus frileux, parce que je trouve que le rôle du MMJ est très ténu. En fait, pendant les 100 premières pages, j'ai cru qu'il ne faisait rien. Et il crée pas le cadre, il fait pas non plus la mise en scène des missions, dans les scènes d'interlude il l'a fait, mais il fait vraiment juste le cadrage, genre toi et toi vous faites une scène ensemble, et ça s'arrête là, après il fait plus rien.
Mais il fait plus chef d'orchestre.
C'est ça. Mais en fonction...
Il est animateur au sens strict,
bah non,
en fait.
Voilà. Son rôle se borne à trouver des objectifs de mission, à obtenir un consensus autour de la table, à choisir qui il met ensemble pendant les interludes. On parlait de MJM animateur justement la dernière fois, en disant voilà, moi c'est comme ça que je conçois les choses. Mais là pour moi c'est encore un cran en dessous, c'est le MJ, je dirais, accompagnateur.
Et le MJ peut être ce joueur aussi ou...
Ouais, il joue des personnages.
Bah, tu joues les personnages, tu joues les seconds rôles.
Mais tu joues pas les.
Ou tu joues les personnages
les
dont
pilotes et les gens.
Tu joues les bonhommes, en gros, un peu dont. Tu joues l'autorité, ce dont personne n'a voulu, quoi.
Bah, il peut peut-être aussi jouer des encres.
Non, il peut pas jouer de
non.
pilote.
Il
ou
peut pas jouer d'encre.
Il peut peut-être, mais bon, c'est pas. Voilà, ouais. Vraiment, il joue des trucs de second plan, en théorie, quoi. Et du coup, ce MJ accompagnateur, moi, en fait, ça me donne le sentiment que la partie se passe bien ou que tout se casse la gueule, t'es un peu observateur sans pouvoir vraiment redresser
ouais,
la
ça,
barre
ouais.
ou contribuer activement au plaisir. Ça se passe bien, t'as bien envie de triper avec les autres, mais sauf que ton seul personnage, c'est le cuisinier, quoi, et tout le monde s'en fout. Ou alors, à l'inverse, tu vois que la mission, ça se passe super mal, l'ancre arrive pas à guider le pilote ou quoi que ce soit, et en fait, bah, c'est casse-gueule parce que t'es pas là, quoi. T'as pas le contrôle narratif pour reprendre les choses en main.
Et les autres, tu peux pas les utiliser ? Si tu es le MJ, ils se défendent pas dans les rêves ?
Bah, les autres, en fait, ils interviennent par le biais de missions que tu as définies. Toi, tu donnes les objectifs des missions, et après, c'est les encres, en gros, qui orientent les pilotes pour leur dire comment est-ce qu'ils vont remplir les objectifs de mission. Donc, c'est seulement à partir du moment où la mission va être plus ou moins compromise et que l'encre perd une partie de son contrôle narratif sur ce qui se passe, que toi et les autres joueurs, vous pouvez commencer à rajouter un peu du cauchemar dans le rêve, et là on peut imaginer un petit peu éventuellement les autres, quoi. Mais une mission pourrait très bien être le contact avec les autres, avec différents objectifs, et là encore une fois, c'est pas le MJ qui va gérer le truc, puisque le premier contact avec un autre, par exemple, admettons, mission, premier contact avec un autre renégat. Mais toi, tu vas définir un peu des objectifs et les grandes lignes, mais après, c'est au joueur qui fait l'encre de tout décrire.
Ouais, il a un peu l'idée. Le MJ, il a l'idée de la partie, quoi.
Bah ouais, il t'observe, quoi.
C'est vrai que moi, je serais incapable de maîtriser un truc pareil, mais par contre, être joueur, ça a l'air vraiment très cool.
Moi, je pense que je pourrais maîtriser ça. Ça me fait triper, là.
Alors, une image que j'utilisais, ouais, c'est un petit peu de dire
je
en gros.
Je vois que t'as les tétons qui pointent, là.
Ouais, je pointe un peu, là, je me caresse, là.
Pourtant, il fait déjà chaud ici.
Ah oui.
C'est pas le froid. Hein. Donc, ouais, je dirais que c'est un. Toi, en tant qu'MJ, tu dis un petit peu aux joueurs ce qu'ils vont préparer comme plat, mais après, c'est eux qui le préparent. Donc, ça peut être très mauvais. C'est pas parce que tu leur as dit fais-moi de la purée qu'ils vont. Ils vont
en fait, t'es juste le jury de MasterChef, quoi.
Même pas parce que t'es pas juge dans la plupart des
cas. T'es le mec qui donne l'émission et après tu te barres chez toi.
Ouais, c'est ça.
Et tu regardes
la télé, quoi.
En fait, là je pense que pour le coup tu peux y jouer par Google Hangout. Tu mets tous les joueurs autour d'une table, toi t'es là par Google Hangout, tu files un briefing de mission parce qu'en fait c'est ça. Le vrai moment où t'interviens, c'est le briefing. Alors votre mission c'est d'aller détruire machin truc mûche, je reviens dans 15 minutes.
Oui, puis après tu vas faire ta vaisselle, ton repassage,
ouais, voilà,
tout ça.
C'est ça.
Et après, au fait, vous en êtes où?
Voilà. Et dit, ah bah là, Gérard il a pris plein la gueule. Ah bon? Et bah justement, on va faire une petite scène d'interlude où tu es en train de discuter avec Gérard dans les toilettes. Et là, tu repars 15 minutes.
T'es en train de dire que ça, à la rigueur, c'est même... les joueurs, ils pourraient le trouver tout seul. Enfin, ils pourraient presque se dire, on fait une scène d'interlude.
Ouais, je suis pas loin de dire ça quand même, ouais. Parce qu'on a...
avoir un investissement similaire à celui d'un MJ, finalement.
Bah, c'est pas ton investissement, je dirais que pour que ça se passe bien, j'estimerais qu'il faut que chaque joueur ait un peu la compétence d'un MJ pour savoir, voilà, comment... Si t'es pas du tout metteur en scène... Bah, quand tu vas faire l'encre qui décrit des trucs, bon, en même temps, ça va te l'apprendre, quoi. Ce que je vais dire plus loin, en fait, dans la fin de ma chronique, c'était ça. C'était fallait tolérer une courbe d'apprentissage. Parce que justement, tout le monde n'est pas MJ ou tout le monde n'est pas habitué à avoir tout ce pouvoir-là. Donc, faut s'accorder, en fait, une courbe d'apprentissage au sein du groupe si tu joues à ce jeu-là, quoi.
C'est bon pour quand il y a 4 MJ qui veulent initier un joueur, ils le font MJ à ce jeu. Et puis...
Voilà, et puis eux, ils jouent entre eux. Et lui, il comprend rien.
S'ils ont cette compétence-là, dans ce que tu l'écris, à la fin, il n'y a plus besoin de l'idée originale. Enfin, ils peuvent se réunir à 4 et se dire.
Voilà, tu gardes tu donnes le menu, quoi. Tu listes les missions, donc t'as quand même une vague idée de quoi est censé ressembler ta campagne militaire, ou tu vas choisir comment qui tu mets en scène d'interlude qui va se rencontrer et ainsi de suite.
Ça peut pas être fait par les joueurs.
T'as des conseils là-dedans aussi pour combien en mettre. Non, parce que les joueurs vont automatiquement orienter le truc vers bon, finalement, on se rajoute des petites scènes d'interlude, comme ça on remonte la confiance, on enlève le stress, on rajoute de l'intimité et on va leur répéter sa gueule.
Voilà. D'accord, ouais.
Mais okay. Oui, non, parce que le MJ en fait va quand même être là pour doser la difficulté. Et ça, c'est des choses qui sont très bien expliquées aussi dans le bouquin sur voilà, comment doser la longueur de la campagne, doser la difficulté. Si vous mettez tant de scènes d'interlude, bah, ils vont arriver à se refaire un petit peu trop. Si vous en mettez moins, ils vont vraiment morfler, etc. etc.
Donc, faut MJ voyeur finalement.
Voilà. Mais bon, néanmoins, tout ça, je vais pas faire difficile parce que c'est un ouvrage qui va vraiment crescendo. On commence, ça se lit bien avec les petites illustrations, donc pour les exemples. Au bout de 100 pages, je commençais à caler, donc justement à cause du rôle du MJ, pouf, on m'amène sur le plateau ce qu'il fait. Je boucle satisfait de cette partie et les conseils sont d'une grande richesse, me donnant une nouvelle vision de ce que je viens de lire, montrant bien la noirceur du setting, donc des personnages, donc des interactions possibles. Genre l'autorité insomniaque qui couche avec un pilote pour tenir le coup tout en l'envoyant à la mort. L'encre blâmée. Bah ouais, mais c'est ça en fait. Non, mais ça te vient pas, ça te saute pas à la première lecture quand tu lis le truc en sens. Et on est, on dit qu'est-ce que c'est que d'être l'autorité. Et là, tu comprends bien. Ou qu'est-ce que c'est que d'être l'encre. Et l'encre, c'est le gars. Ça se trouve, c'est la personne qui t'aime et qui te voit dans le monde des rêves faire appel à qui. Faire appel à Gérard et pas à toi. Pour façonner son armure.
Foiré.
Il voit en fait tout. Bah c'est ça. Lui, en fait, quand tu vas lui expliquer, quand le pilote va expliquer, ouais, là, je fais appel à mon intimité, tu vois, bah, c'est vachement. Dis donc, ton fouet avec Gérard, il a vachement grandi là. C'est normal, je dois m'inquiéter ou... et voilà, tu te retrouves en position un petit peu...
Le fouet de Gérard.
Ouais. Est-ce que t'emmènes pas ton pilote à la mort pour te venger aussi?
Ouais, c'est ça. C'est... Et de toute façon, en plus, si ça...
Les
si,
relations
si,
qu'il si, a avec son jetpack...
Si la mission réussit, c'est le pilote qu'on va féliciter. Si on foire, on va dire c'est à cause de l'encre. Donc c'est quand même pas super positif. Et puis pareil, le pilote aussi, bah, qui va à la mort, qui a peut-être peu envie de faire ça... Bon voilà quoi.
Moi j'aime bien, hein. Tu me fais kiffer depuis tout à l'heure.
C'est hyper
quand on a fini, voilà, quand on a fini tout ça, on a donc le setting tout fait. Et là, c'est difficile de pas vouloir tout relire avec un nouveau regard et de chercher du monde pour y jouer.
Ouais,
c'est vraiment ça. Quand t'as fait le tour du bouquin, vraiment, c'est un très bon exemple de
pédagogie,
de choses à lire. Comme j'ai dit, hein, pourtant moi qui suis habitué à être MJ, j'ai ce calage. Genre, est-ce que j'aurais envie de jouer de faire ça en MJ? Donc j'en avais mitigé, mais c'est riche. J'en recommande la lecture. Même pour la forme, la manière dont les choses sont amenées, c'est très instructif.
Il faut absolument qu'on passe à autre chose. Ok, très bien. En fait, moi, ça m'a donné très envie de jouer.
Revoir,
ça a l'air
Gérard.
Vraiment cool. Au revoir, Gérard.
À bientôt dans nos rêves.
Quelle horreur! Alors, nous allons tout de suite passer à Knights Black Agent et c'est moi qui vais vous en parler. Et
ah
oui, il y a très longtemps que je n'ai pas traité de jeu. Donc Knights Black Agent est un jeu de Kenneth Haidt qui est paru en français au 7ème cercle. C'est du A4 de 224 pages pour 46€. C'est un peu cher, je trouve. Le jeu est en quadrichromie avec pas mal d'illustrations. Celles-ci sont passables, elles collent à l'esprit du jeu sans être inoubliables. La mise en page est claire, le jeu est découpé en grands chapitres qui sont repérables par des onglets sur la tranche du livre, et ça c'est très pratique. En gros, le pitch du jeu, donc on joue des anciens agents secrets, des agents de services de renseignement divers et variés d'à peu près toutes les nations, ou des barbouzes, ou des gens qui naviguent dans ces milieux, ou qui sont à la fois du renseignement et de l'action. Donc, à un moment donné de notre carrière, on s'est rendu compte qu'il existait des vampires et qu'en fait, il y a un énorme complot vampire et que ce sont eux qui maîtrisent tout. Pour des raisons diverses et variées, ils se sont donc ligués contre ça et ils doivent essayer de remonter les pistes qu'ils vont trouver. Ce jeu est découpé en 11 grands chapitres. Une intro qui dit en gros ce que je viens de vous dire. Avec en plus un truc qui est assez cool. Ah oui, je n'ai pas dit autre chose également. Il n'y a pas vraiment d'univers parce que c'est une énorme boîte à outils, mais qui est extrêmement bien conçue. Avec tout d'abord, donc il y a des modes de jeu, c'est-à-dire des éléments qu'on peut rajouter ou non en fonction de la teinte qu'on veut donner à sa campagne. C'est-à-dire du drama. Du suspense, de la conspiration ou des enjeux. Donc le drama, c'est pour faire du Jason Bourne, le suspense, c'est pour faire des films d'espionnage un peu plus classiques. Conspiration, on rentre dans du X-Files un peu plus poussé, avec notamment des points de trahison et des choses comme ça. Et enjeu, je sais plus ce que c'est, mais bref. voilà, on a chacun de ces modes qui sont représentés avec des icônes. Et ces icônes vont se retrouver à plein d'endroits du jeu, par exemple dans les compétences ou dans des trucs comme ça, et qui vous permettront de teinter justement le jeu dans la direction du mode utilisé pour que ce soit plus agréable à jouer.
En gros, t'as, dans tel mode, tu vas utiliser telle règle, dans tel autre mode, tu vas utiliser ou pas telle compétence, etc.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, tu as certaines spécialités de compétences qui ne seront accessibles que dans certains modes. Tu as un mode...
certains niveaux qui vont être restreints.
Tu as notamment... Il y a des règles de fusillade et de poursuite et de trucs comme ça qui sont réservés au mode drama, je crois, et qui donc te permettent d'ajouter des éléments qui sont typiques de ce type de d'histoire.
Ouais. Au sein d'une même aventure, tu vas switcher
non.
Les deux modes.
Non,
c'est toi qui dois orienter la façon dont tu conçois le jeu en fait. C'est-à-dire tu as une conspiration avec des vampires et des bonhommes qui les poursuivent et la façon dont ils vont arriver à les choper, ou en tout cas la façon dont ils vont évoluer, ça va être influencé par les modes en question.
J'allais dire, c'est un peu comme dans les dernières éditions de Cthulhu où t'as Horror Lovecraftienne.
C'est pas
surnaturel
très
surnaturel contemporain, ouais, et genre pulp, ouais. C'est un peu ça.
C'est ça, mais en plus ouvert évidemment, puisque ce n'est pas.
Ouais, on avait déjà ça dans Cthulhu aussi, où t'avais le mode pulp et le mode.
Ouais, bah c'est ce que
je
veux dire.
Ouais. Mais la version Gumshoe. La version Gumshoe, parce que c'est la même chose.
De Lovecraft, ouais.
Oui, si vous voulez le mode pulp, allez au chapitre 3.
Mais non, mais Cyril, allons. Nous parlons de deux systèmes de jeu différents, puisqu'il y a le système de Chaosium et le système Gumshoe,
Gumshoe,
en fait, qui est donc celui créé par Kenneth Haidt, qui est l'auteur de ce jeu en question.
Tout à fait.
Et justement.
Ça peut changer à chaque partie, tu penses ou pas?
Pardon,
non, pas du tout, sinon t'as pas de cohérence de...
Si t'as pris une compétence dans un mode et que le mode change...
Ça va...
Et puis surtout, c'est un moment... Enfin, la partie d'après, t'auras plus droit aux fusillades ou aux poursuites.
Si tu pars sur de la conspiration et de la trahison et compagnie, c'est quelque chose qui va transpirer d'épisode en épisode.
Avec des personnages qui font... avec des aventures qui seront peut-être plus verbeuses...
Que non, tout à fait.
James Bond, ça devenait Inspecteur Clouseau,
ou Inspecteur Gadget.
Non, tu le choisis au démarrage et après tu y tiens quoi. Et dans le c'est marqué dans le bouquin en fait c'est symbolisé par des petites icônes qui permettent de facilement
retrouver
en fait.
Oui, tout à fait. C'est ça. Il y a une icône par type de mode et en fait elles sont pastillées justement aux endroits où on doit utiliser des trucs particuliers. Bref, dans cette intro, il est également mentionné les commentaires DVD. C'est-à-dire, ce sont des commentaires qui sont issus des parties de test ou des commentaires des gens qui ont travaillé sur le jeu, voilà. Et qui sont des commentaires purement pratico-pratiques qui ont été expérimentés. Et donc, ils sont placés un petit peu partout dans le bouquin et ça apporte souvent des compléments intéressants. Même si je pense que, en fait, l'essentiel est dans les vrais textes. Donc après cette intro, il y a donc tout ce qui concerne la création de perso, le gros des règles qui sont donc la reprise des règles de Gumshoe. J'en parlerai tout à l'heure. Après, en gros, le système. Les ressources, c'est donc tout le matériel d'espionnage et autres qui sera utilisé parce que, évidemment, en fait, il y a vraiment une énorme liste de matos qui permet de faire du Mission Impossible. C'est-à-dire avec un haut degré de paranoïa et aussi un haut degré de technologie. Après, il y a un gros chapitre sur les ventes Empire, et donc sur les conspirations en question. Un chapitre sur les villes, où en fait il y a trois villes de décrites, si je me souviens bien, et c'est assez sommaire, mais voilà. Puis le scénario et des suppléments divers. Pour revenir sur la création de perso, donc on commence tout d'abord avec un profil un peu générique qui correspond au métier qu'on faisait avant de se mettre à chasser les vampires. Donc ancien agent des renseignements, agent du Mossad, de la DST, ou je sais plus quoi, DCRI, pardon. Il y a donc ce profil de base auquel on va rajouter une distribution de compétences. Alors ces compétences sont divisées en deux, d'une part les compétences d'investigation et d'autre part les compétences générales qui serviront à faire des trucs physiques et autres. La différence entre les deux est très importante parce que en fait elle correspond à des usages et à des règles différents. C'est-à-dire que c'est le moment où on va juste après ce sont les règles, donc tant qu'à faire on va tout de suite aborder ça. En fait, lorsqu'il y a des scènes d'investigation où on doit chercher des indices, il n'y a pas de dé à lancer. Il y a des... en fait, les compétences correspondent à des pools de points à dépenser. Et à partir du moment... Je dis des conneries. Les points dépensés, c'est...
Tu peux dépenser, en fait. De base, à partir du moment où tu as...
En fait, tu peux les dépenser, mais en fait, de base, à partir du moment où tu spécifies à quel endroit tu cherches ou si tu utilises telle compétence pour telle raison, à partir du moment où que tu le justifies par rapport à ce que ton personnage est en train de faire, je sais que ce mec était médecin et on a dit qu'il a fait des expériences bizarres, je vais aller voir dans son labo et fouiller dans ses tiroirs et ses échantillons, par exemple. Et là, de base, on va te donner l'information. Cependant, si tu rajoutes un point, tu pourras avoir la petite info en plus qui pourra éventuellement te guider sur un truc.
Tu vois qu'il est en train de bosser sur des analyses de sang bizarroïdes,
ouais,
etc.
Mais ce sera connexe. Parce que
il faut que ça reste vraiment dans le domaine du médical, par exemple, si on est parti sur ce truc-là. Ouais. Ouais.
Et donc, en fait, à partir du moment où le personnage ou le joueur a l'idée de faire telle ou telle action, on lui donne ces trucs. En revanche, pour les compétences générales, quand il s'agit de courir, quand il s'agit de se battre contre un monstre, par exemple, là, tu as un pool de points et en fait, tu lances des dés. Et
tu jettes un dé de 6, enfin de mémoire, alors, si c'est resté comme le reste du même
chou. Je crois que c'est un ou deux, sais plus, ça n'a pas une grande importance. Donc tu lances des dés, c'est forcément très aléatoire, et auquel tu peux quand même rajouter des points qui dépendent de ton pool.
Donc si je veux m'enfuir, j'ai athlétisme, et ben, je décide que ça vaut vraiment la peine de me sauver, et donc je sacrifie deux points d'athlétisme et pour ajouter plus deux à mon dé.
C'est un mécanisme que je trouve intéressant parce que justement, étant donné que l'enquête est un peu le cœur du jeu, ce serait vraiment trop con de rater la belle aide de jeu que tu as fait toi-même en mettant du thé avec une feuille et tout ça.
C'était le principe de base quand ils ont créé Gumshoe, de se dire mais tu as un scénario d'enquête, personne n'a réussi son jet de recherche, trouver objet caché et compagnie, etc. Ton truc il est foiré. Donc autant supprimer en ce problème-là en disant de base, si tu as la bonne compétence, et donc tu fais un panachage de compétences sur l'équipe entière, et du coup, de base, quelqu'un aura la compétence, donc tu sais que tu vas pouvoir refiler ton papier. Mais avec juste le petit gimmick en plus de dire si tu me payes plus, tu pourras faire une analyse graphologique de ce qui est écrit, etc. Vraiment.
Oui, et alors pour la plupart des compétences, il est spécifié au moins 4 ou 5 utilisations particulièrement précises de cette compétence dans des utilisations qui ne sont pas évidentes comme ça. Et en fait, quand tu veux l'utiliser, que tu lis les trucs, ça peut vraiment te donner des idées cool pour le scénario. Il est également mentionné parfois l'utilisation de mode dont je parlais au début avec la petite pastille. Par exemple, si le seuil de ta compétence dépasse 8 ou 10
c'est un peu des seuils de limite.
Voilà, des seuils de limite. Tu deviens un peu un expert et tu as des espèces de coups spéciaux. Par exemple, si je me souviens bien, en conduite, si tu as plus de 8, tu as le truc spécial Grand Theft Auto.
Alors que c'est tous des conducteurs de merde. Hein,
ouais. Mais bon. Qui rentre partout, c'est vrai en plus.
Ouais, mais ça peut te donner une espèce de super enquêteur avec une super spécialité.
Ça dépend du style de jeu. En fait.
C'est pour l'option Jason Bourne qui est le truc qui me paraît le plus cool quand même.
Oui, c'est le mec qui saute, il arrive à rentrer dans des fenêtres, l'étage d'en face et tout. Enfin, voilà,
mais en fait, c'est nécessaire parce que après il y a les vampires. Alors justement.
Twilight alors.
Justement, Révon, là, alors je vous fais pas le détail des règles parce que contrairement à Yannick, c'est pas la partie qui m'intéresse le plus. Alors les règles d'encombrement ou les je sais pas quoi, ou de noyade, je ne sais même pas si c'est géré. Je ne l'aborderai pas parce que je ne l'ai pas lu, ni la santé d'ailleurs. Donc, alors pour continuer, on va passer maintenant à tout ce qui concerne les vampires. Alors là aussi, pour chaque mode de jeu, il y a des types de vampires qui sont recommandés, en fait. Et en fait, tu peux choisir... il y a des nouveaux modes de vampires. Si tu considères que la nature de celui-ci est d'être un damné, ou alors d'être une entité extraterrestre, ou alors d'être de venir d'un espèce de monde parallèle ou voilà, selon comment tu considères l'entité vampire, ça va changer pas mal de trucs. Ça va notamment changer quels sont les éléments auxquels il va être sensible. Alors ça peut s'appuyer sur des légendes slaves et des trucs comme ça, des trucs qui viennent de Roumanie et tout. Dans les exemples qu'ils donnent dans le bouquin, il y a un truc pour repousser les vampires, c'est être entouré de buissons d'aubépine ou des trucs comme ça, ou de rosiers sauvages. L'idée est amusante parce que c'est un truc qui est pas du tout connu. Enfin, moi, je connais pas ça du tout.
Parce que ça n'a pas été diffusé par les films.
Mais alors,
etc.
Justement, je trouve que le fait de le présenter comme ça, ça donne bien le type d'utilisation que tu peux donner à ton.
En plein New York, ça me paraît compliqué. Hein.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais après, tu peux faire des trucs très techno. tu décris un petit peu donc ainsi ton vampire idéal et après tu peux déterminer ta vampiramide. C'est-à-dire que tu crées c'est là où tu crées ta petite conspiration
complot,
perso.
Complot.
Voilà exactement où tu fais ton organigramme. T'as le grand chef, après ça se divise, machin, tout ça ça te donne finalement tes PNJ qui seront importants pour chaque cellule de cette conspiration. Et le bouquin est extrêmement bien conçu parce qu'il te montre à la lettre comment construire ça pas à pas avec plein de trucs pour t'aider et tout. C'est-à-dire
que tu commences à lutter contre le vampire de ton quartier, tu peux finir par.
Ouais, voilà, c'est ça. Tu commences par ton quartier et après la ville, machin. Et puis,
complot mondial.
Deux complots mondiaux.
Jusqu'à Barack Obama.
Jusqu'à Barack Obama.
Où ça se trouve en fait, jusqu'au chef des vampires qui habitait lui aussi ton quartier.
Oui, qui était ton voisin.
Que
ton
premier,
frère.
Le premier que t'allais buter, en fait, il allait lui chercher une bouteille de sang pour lui ramener. Et tu as fait tout le tour du monde.
Qui te permet de construire cette espèce de structure et qui te propose plein d'éléments pour structurer le scénario autour de ce que tu dois amener. Donc, comme je te le disais, c'est vraiment une boîte à outils. T'as pas vraiment d'univers qui est fourni avec. Cependant, ils te décrivent trois villes de manière sommaire avec des lieux, des trucs. Voilà.
T'as quand même des options d'univers en fait. C'est-à-dire que même si t'as pas un univers qui est décrit très exactement.
Justement, en fait, dont tu vas choisir tel ou tel élément, ça va réduire le faisceau des trucs que tu peux faire. Et donc, du coup, t'auras une idée précise vachement vite. Et il te propose.
Ouais, mais tu vas jouer dans un univers Metroid, par exemple.
Non. Mais par contre, il te propose une option pour jouer avec les règles de Cthulhu. Et donc, si tu as aussi le Cthulhu, qui a été traduit aussi par le 7e cercle, ouais. tu peux mêler le mythe au vampire, mais surtout à cette façon de structurer l'aventure en pyramide en fait.
Ou tu peux aussi en profiter pour ne pas dire aux joueurs à quel jeu ils jouent et leur faire découvrir.
Ah oui, ouais, tout à fait.
Ouais, tu pourrais, parce qu'il y a plusieurs. T'as avec le système Gunshoe, il y a Cthulhu, il y a Ésotéroriste, il y a Mutant City Blues, on joue une vie de super-héros un peu comme le comics Top 10. Il y a quoi d'autre? Ashen Stars qui est la version Space Opera, enfin un peu à la Star Trek, etc. Quoi.
Par contre, c'est plutôt moderne.
Ça, c'est varié.
Là, c'est du contemporain.
Ok, donc toi, t'as aimé.
Ah, moi, j'ai trouvé ce bouquin super bien conçu.
Et tu maîtriserais?
Limite, je serais prêt à faire l'effort, ça m'a pas l'air trop difficile.
Non, mais c'est une bonne question parce que les gens commencent à les connaître chacun.
Oui, voilà.
Ça sent la campagne. Enfin, je trouve ça.
Ah ouais,
on sent ça. C'est
clair que ça vaudrait le coup de faire un truc où tu dévoiles. En fait, ça me fait penser à la vieille campagne de Casus qui s'appelait L'Héritage Greenberg.
Ouais, tout à fait, j'y pensais.
C'était une très très bonne campagne dans le milieu, en Louisiane et tout ça.
Avec une double enquête du FBI.
Voilà, et je pense que c'est le genre de truc qui vaudrait le coup d'être revisité avec ce système qui
c'est marrant parce que je t'avais parlé du jeu que j'avais en tête et qui en fait ressemble tellement à ce jeu là que finalement je vais pas faire le mien puisque celui-là existe déjà, et je m'étais aussi basé sur l'héritage Greenberg, moi j'étais aussi parti là-dessus. Les mêmes causes, si tu veux, font les mêmes conséquences.
C'est possible de faire ce genre de campagne sans dire aux joueurs jusqu'où il va aller? Ça vous paraît plausible ou pas?
Ouais, carrément.
De cacher aux joueurs, de pas leur dire que.
Bah, surtout, surtout si tu joues en mode conspiration, trahison et compagnie, tu t'expliques pas tout, quoi. Tu fais vraiment les trucs, tu fais vraiment les pièces au fur et à mesure.
Mais même sans qu'ils devinent qu'il y a.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi le mode film d'espionnage où, en plus, tu as la gestion des points de trahison et des machins. T'as des. Il y a aussi des éléments de ton background qui sont, si je me souviens bien, ton symbole, ton repère et je sais plus quoi, qui sont trois éléments de stabilité dans ta vie. Genre, t'as le médaillon avec la photo de tes enfants et c'est un truc qui te redonne du courage et de l'équilibre mental quand tu en as besoin. Mais quand tu le perds, alors là, t'es au 36e dessous et tout.
Mais oui, par exemple, pour le mode trahison et compagnie, on parlait tout à l'heure de récupération automatique d'informations, mais t'as aussi des possibilités de dire, bah, c'est celui qui a le plus en. Je sais pas le nom des compétences, hein, je les rappelle plus, il y en a 50 000, puisque c'est le premier qui a cryptozoologie qui va arriver à reconnaître. Enfin, celui qui a le meilleur niveau en cryptozoologie qui aura l'info. Ou celui qui acceptera d'accord. de dépenser le plus de ça. Et donc, du coup, tu vas peut-être avoir quelqu'un dans l'équipe qui dira, ça, alors tu as trouvé quelque chose non, ça, t'es un poil de cul. Alors que c'est peut-être un poil de vampire sauvage de Roumanie.
Mais
que tu le gardes pour toi sans le dire aux autres. Et là, le MJ va te donner l'information sous la forme de petit papier à l'ancienne ou dans la cuisine. Ah, et là, tu crées le climat.
Les fameuses informations de cuisine.
Bah ouais.
Faut que je te parle.
Tu dis rien, ça va, c'est tout. Et tu reviens d'un air suspicieux.
Et tout le monde te regarde.
Je le fais souvent, ça.
Bon, pour conclure très très vite, je trouve le jeu vraiment excellent et. Et oui, je suis même susceptible de le maîtriser, et paf. Bon allez, je fais vite une coupure et on se retrouve tout à l'heure.